plan que je vous ai donné et que vous trouvez à la page 3. Le plan rapide, vous essayez de voir où nous en sommes ce soir. Nous avons vu qu'il y avait un prologue et puis que, après une vision préparatoire, nous avions comme un système qui se trouve présent au milieu des candélabres, c'est-à-dire des différentes églises, et qui s'adresse dans une lettre circulaire aux sept églises de l'Asie mineure. Et nous avons vu que ce qui était dit à chacune des églises vous êtes retrouvé dans les pages que je vous ai données encore, hein, les pages 7 et 8. Certains ont pensé que ces lettres aux églises avaient été rapportées par après. C'est possible. Mais en tout cas, elles s'introduisent bien, elles s'intègrent parfaitement dans l'ensemble du plan de l'Apocalypse, parce qu'elles nous montrent que c'est à partir des réalités concrètes de nos églises concrètes que nous pouvons découvrir le sens de ce livre. Et après ces sept lettres, une liturgie d'adoration, et j'ai mis justement là le livre avec l'adoration de l'Eucharistie, de la mort, pour que vous puissiez voir à vous comment le livre a transformé, en quelque sorte, transposé hein, ce texte de l'Apocalypse dans sa peinture. Donc après ces lettres d'église, une liturgie d'adoration qui se poursuit au chapitre 4e, qui se poursuit au chapitre 5e. Nous avons vu justement cette charnière la fois passée, cette liturgie d'adoration, et qui va s'ouvrir sur les sept sceaux que nous devons voir aujourd'hui. Nous avons vu que quelqu'un se trouvait sur le trône au milieu du ciel, et ce quelqu'un n'est pas nommé, mais on comprend bien que c'est la présence même de Dieu, et on ne sait pas très bien hein, si l'agneau fait nombre avec cette présence de Dieu qui se trouve sur le trône. Car l'agneau se trouve également sur le trône, et la plupart du temps, quand on parle des deux, au lieu de les dénombrer premier et second, hein, on parle de lui. Donc on voit très bien que Jean intègre cette présence de l'agneau, hein, qui symbolise la réalité, la personne même de Jésus, hein, qui le prend comme un tout avec Dieu et les sept esprits qui sont hein, la présence de Dieu qui se trouve dans le monde, et c'est son agir dans le monde. Et donc nous allons voir aujourd'hui, du chapitre 5 à la fin du chapitre 7, avec un tout petit départ au chapitre 8, ce qu'on appelle le septennaire des sceaux. D'abord, la vision inaugurale qui se mêle à la liturgie d'adoration de la fois passée. Et puis, nous avons le défilé des cavaliers qui viennent au moment où l'agneau découvre les différents sceaux. Et ça se termine, mais nous la verrons la fois prochaine, celle-là, celle-là nous la voyons encore aujourd'hui, par une nouvelle liturgie d'adoration. Voilà donc où nous nous trouvons dans le texte. Maintenant, une petite réflexion d'abord, comme je le fais d'habitude, sur cette liturgie d'adoration, ou cette liturgie du trône. Nous voyons bien que cette vision du ciel où se trouve un trône avec sur ce trône la présence divine et l'agneau entouré des quatre vivants qui sont un peu comme les quatre colonnes qui supportent le trône et qui symbolisent la création tout entière. Tout autour, vous avez les 24 vieillards. C'est bien les 24 vieillards qui symbolisent vraisemblablement la présence de l'Ancien et du Nouveau Testament. Testament, quelle que soit la manière dont on compte bien prophètes et apôtres, ou bien 12 patriarches, hein, on peut, et apôtres, on peut construire les choses un peu différemment. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais un seul symbolisme. Hein, les symbolismes sont toujours un peu vibrants. Et il peut y avoir différentes manières d'interpréter. Et le texte se prête à cela. Maintenant, que signifie justement ce trône? Ce trône symbolise la transcendance de Dieu. On voit bien que les images sont sorties du livre de Daniel, hein, le chapitre 7. On voit bien aussi qu'il y a des réminiscences de la liturgie du temple de Jérusalem, dans les fastes à la fin de l'exil, plus exactement, probablement, juste avant le deuxième siècle, le premier siècle avant Jésus-Christ, Donc il y a des réminiscences qui viennent. Et il y a évidemment aussi, en arrière-fond, l'image de l'empereur de Rome, la cour de l'empereur de Rome qui devient ici la cour céleste. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas s'attacher aux images, mais il faut plutôt se demander, mais qu'est-ce que les images, au fond, à quoi se réfèrent-elles? Et qu'est-ce qu'elles veulent nous faire percevoir? Eh bien, ce que ces images veulent nous faire percevoir, c'est que la cour de Dieu, même si elle ressemble en quelque sorte aux cours humaines parce que nous ne pouvons pas nous exprimer autrement qu'avec ce que nous connaissons, la cour de Dieu est tout à fait différente de ces cours humaines. Et que Dieu est roi, mais pas à la manière des rois de la terre. C'est tout à fait différent. Et donc on veut vraiment faire percevoir cette transcendance absolue de Dieu. Et donc, les royautés de la terre sont de ce fait même, non pas dévalorisées, mais elles sont relativisées à ce pouvoir qui vient de Dieu. Et donc elles ne peuvent absolument pas prendre sa place. Mais où est situé ce trône de Dieu, hein, que l'on met imaginativement dans les cieux? En fait, ils sont situés à l'intérieur de chacune de nos vies. Cette présence divine, elle nous habite. Et c'est bien de cette réalité-là que Saint Jean veut parler. Dieu est tout à fait proche de nous. Il n'est pas distant de nous. Mais il est dans notre ordre. Il ne parle pas exactement notre langue. Il ne se fait pas percevoir par nos images humaines. C'est nous qui construisons ces images. Mais il est absolument transcendant et tout proche. Et c'est exactement cette réalité-là que veut nous faire percevoir à travers ces images, le voyant, qui est Jean, l'évangéliste, disons que c'est lui. Et il y a encore un modèle qui traîne dans la mémoire de l'auteur, c'est ce chapitre 24e de l'Exode, lorsque Moïse s'en va au sommet du Sinaï, accompagné des 70 anciens du peuple, et qui contemple la présence divine. Vous voyez, ces images ne sont jamais uniques, ces images travaillent, et elles sont en quelque sorte mouvantes. Il y a comme un fondu enchaîné dans ces images. Alors, il ne faut pas nous étonner de retrouver des détails, par exemple, chez Ézéchiel et d'autres chez Isaïe, comme dans la vision de Dieu elle-même, nous trouvons des détails de l'un et de l'autre. Et tout ça est en quelque sorte amalgamé. Et, deuxième remarque, si tout cela se découvre dans une liturgie, et une liturgie d'adoration, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'absolument unique. On adore que Dieu. Oh, je sais bien qu'aujourd'hui, hein, on adore tout, hein. Du gâteau comme le cinéma, hein, une promenade en bateau, peu importe. On adore tout. Mais l'adoration pour l'auteur de l'Apocalypse, c'est une réalité tout à fait particulière et unique. L'adoration, c'est vraiment se trouver devant la présence de Dieu comme notre créateur, comme celui qui nous donne la vie. Non pas seulement cette vie mortelle, celle que nous avons reçue de nos parents, mais qui nous donne d'être nous-mêmes, d'être des uniques dans le royaume de Dieu. Et donc c'est ça la réalité céleste qui se trouve à l'intérieur de nos vies. C'est cela que Saint Jean veut nous faire percevoir. Ce lieu où personnellement je suis sanctuaire de Dieu, où la présence de Dieu me touche, et en même temps où je deviens exactement moi-même, unique, ayant un mystère unique dans ce lieu. Et donc, ce que Saint Jean veut nous faire percevoir, c'est que la liturgie, toutes nos liturgies, toutes nos célébrations, sont un lieu et une occasion de révélation profonde de ce que nous sommes. Nous touchons Dieu et nous atteignons notre être le plus profond. C'est donc un avant-goût du royaume, et il ne faut donc pas s'étonner que nos liturgies soient prophétiques. Les gens me disent, ah, moi je ne vis pas au niveau de la liturgie. Ben, je comprends bien que vous ne vivez pas au niveau de cette liturgie. Mais vous vivez déjà quelque chose de ce mystère. Et si vous reprenez les post-communion, c'est-à-dire les oraisons après la communion, vous verrez que l'on parle presque toujours de cet avant-goût du ciel que nous avons vécu dans la liturgie. C'est-à-dire que nous avons atteint quelque chose du mystère, que nous soyons maintenant absolument conscients à 100%, ou que nous le soyons plus ou moins, nous avons touché le mystère, ou plus exactement, c'est le mystère qui nous a touchés. L'agneau égorgé, c'est évidemment une allusion à la passion et à la mort de Jésus. Il nous a aimés et il a versé son sang pour nous. Il faudra bien sûr que nous creusions davantage ce que ça veut dire. Verser son sang pour nous, nous y arriverons. Avec le livre de l'Apocalypse, il va nous prêter cela. Et donc, l'agneau, c'est Jésus qui a vécu notre vie humaine, qui est mort et qui est vivant. Il est le vivant qui nous fait vivre. À ce sujet, je prends quelques questions qui m'ont été posées. Une première question, Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce quelqu'un assis sur un trône? Je répondrai comme un rabbin répondait à un de ses disciples, qui demandait où donc est Dieu? Partout où tu le laisses entrer, a répondu le rabbin. Et bien voilà, il est là où nous le laissons entrer. Et donc, il est fait pour être à l'intérieur de chacune de nos vies, à nous de le découvrir. Et une question aussi qui se posait à propos du caillou blanc. Qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc qui porte un nom que ne peut découvrir, ne peut entendre que celui à qui il s'est donné, il reçoit. Mais c'est vraiment notre nom particulier, notre nom épelé par Dieu, une manière unique de nous appeler parce que c'est de nouveau ce mystère que nous touchons, le lieu où il est au cœur de notre vie. Alors encore une autre question, est-ce que les sept esprits de Dieu sont comparables aux séphirotes? Les séphirotes, c'est une manière de la cabale au Moyen-Âge, hein, la cabale juive qui essaie de transposer les attributs de Dieu et de les transposer sur la réalité du corps, la réalité corporelle de l'homme pour montrer une sorte de symbiose qui existe entre Dieu et ce que nous sommes, c'est-à-dire l'image de Dieu. Il y a le fait d'être très semblable parce que sagesse, intelligence, divinité, couronne, charité, force, splendeur, royaume, tout ça, ce sont des réalités qui viennent dans la Kabbale. Mais les sept esprits de Dieu se rattachent davantage, même si on peut parler des sept dons du Saint-Esprit, hein, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la prudence, la crainte de Dieu, hein, même si on peut, cela vient plutôt du chapitre 11e du livre d'Isaïe, hein, ce chapitre 11e qui nous montre quels sont les attributs en quelque sorte du roi. Mais il y a bien sûr, avec plus de 11 siècles de différence, hein, il y a bien sûr, même davantage si on veut parler d'Isaïe, hein, il y a bien sûr des accointances. Il s'agit de toute manière de la présence de Dieu à l'intérieur de l'homme et donc dans notre histoire humaine. Venons-en, si vous voulez, maintenant, nous allons lire le texte comme nous faisons d'habitude, venons-en à ce chapitre 6e. Nous allons découvrir l'agneau, c'est-à-dire la personne de Jésus lui-même, qui est le seul digne, le seul adapté, le seul compétent pour ouvrir les cieux, c'est-à-dire pour révéler le sens de notre histoire humaine. Pourquoi est-il le seul? Parce qu'il est Dieu présent en homme. Et donc il sait ce que c'est, il a vécu une histoire humaine. Mais une histoire humaine, bien entendu, est une histoire partielle, elle court sur un certain nombre de dizaines d'années, mais elle ne va pas au-delà, même si vous dépassez 120 ans, on le dit de Moïse. Donc l'histoire humaine est toujours limitée. Mais Jésus étant Dieu fait homme, ne vit pas seulement une histoire humaine, hein, même cette histoire que l'on dit d'un peu de 30 ou de 36 ans, peu importe, une portion de temps et d'espace. Jésus, Dieu, deuxième personne de la Trinité, assumant une humanité, n'assume pas une seule petite humanité, il assume, elle montre que toute humanité, depuis la première jusqu'à la dernière, sont assumées par Jésus lui-même. C'est ce que l'on appelle, hein, un collectif ou un universel, mais un universel qu'on crée, pas un universel abstrait dans notre tête, mais il assume chacune de nos humanités. C'est comme ça qu'il est présent au plus intime de notre moi. Et donc c'est ce mystère-là que Jean veut un peu sonder. Et il le fait, comme je vous le disais, avec des images, et des images multiples. Alors je vis, je suis au chapitre 6e, verset 1, alors je vis, quand l'agneau ouvrit le premier des sept sceaux, un sceau, c'est ce qui cache, c'est ce qui montre qu'il y a une réalité secrète, il faut le décacheter pour dévoiler le sens. Quand j'ai une lettre qui est cachetée, je dois l'ouvrir, et bien c'est ça. C'est cette ouverture, donc c'est le geste d'une révélation. Quand l'agneau ouvrit le premier des sept sceaux, j'entendis le premier des quatre animaux s'écrier d'une voix de tonnerre, « Viens !» Il est, il était, il vient. Ce « vient » tout de suite nous rappelle que la présence de Jésus, Dieu fait homme, a été exprimé comme cela. Il est, il était, il vient. Et qu'il apparaisse. Qu'il apparaisse dans ce monde. Et je vis. C'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Étonnant ce premier des cavaliers qui est d'abord, d'où vient-il? D'où viennent ces cavaliers? Ah, ces cavaliers, ils viennent d'un texte que nous trouvons dans le prophète Habacuc, mais nous trouvons de façon un peu plus claire dans le livre de Zacharie. Zacharie, en effet, commence ses oracles en montrant la vision des cavaliers. Je vous lis pour que vous voyez un peu comment Jean va traiter une image, il va évidemment la modifier. Voici. Un homme était debout parmi les myrtes qui ont leurs racines dans la profondeur, des arbres verts. Derrière lui, des chevaux, roux, alezans, noirs et blancs. Et je dis, qui sont ceux-là, mon Seigneur ? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui ils sont. L'homme qui se tenait parmi les myrtes fit cette réponse. L'homme qui se tenait parmi les myrtes, vous retrouvez l'homme qui se tenait parmi le fils d'homme qui se trouvait parmi les candélabres. Ce sont ceux que le Seigneur a envoyés parcourir la terre. Donc, ces cavaliers, ces chevaux, ces cavaliers parcourent la terre. Or, ils s'adressèrent à l'ange du Seigneur qui se tenait parmi les myrtes et dirent, nous venons de parcourir la terre. Et voici que toute la terre est en repos et tranquillité. Alors l'ange du Seigneur prit la parole et dit, « Seigneur des armées, jusque à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda, auxquelles tu fais sentir ta colère depuis 70 ans ?» À l'ange qui me parlait, le Seigneur répondit par des paroles bien consolantes. Alors l'ange qui me parlait me dit, « Fais cette proclamation. » Ainsi parle le Seigneur des armées, j'éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion, mais une très forte colère contre les nations orgueilleuses, car moi je n'étais que peu irrité, mais elles ont passé la mesure. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je me tourne de nouveau vers Jérusalem avec compassion, mon temple sera rebâti, etc. Et voici donc, il revient encore un peu plus loin, sur une vision des chevaux, mais qui sont attelés à des chars, au chapitre 6e. Mais nous n'avons pas le temps de tout lire. De temps en temps, je ferai une petite incursion pour vous montrer d'où viennent ces textes. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval et qu'est-ce que c'est qu'un cavalier ? Le cheval est fougueux. Le cheval est une puissance animale, une force. Et cette force peut être contrôlée, matée. Et donc, il s'agit d'une force qui est lancée, mais une force donc contrôlable. Qui est ce cavalier blanc ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Certains ont pensé à cause de la couleur blanche, qui dit toujours une réalité céleste, une réalité qui a affaire avec Dieu, à cause de la couleur et à cause de l'arc que Dieu suspend dans la nuée à place des juges, ou l'arc qui signifie les flèches que Dieu lance à l'homme, qui sont toujours des interpellations vers la Torah. Ça pourrait être Jésus, effectivement. Mais, c'est curieux, cet arc pourrait être aussi, et on voit bien tenir un arc en étant à cheval, cela fait penser aux Parthes. Les Parthes qui se trouvaient sur les bords de l'Euphrate et qui de temps en temps faisaient une incursion dans l'Empire romain. Donc c'est Jésus, oui, ça pourrait être, et ça pourrait être aussi l'homme dans sa dignité. L'homme, une sorte de vision d'Adam. Certains ont pensé cela aussi. Et c'est probablement dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc c'est, si vous voulez, le premier qui va mener les quatre cataclysmes, enfin trois autres en tout cas, car les trois autres chevaux qui viennent, ce sont certainement des chevaux de malheur, comme nous dirions. En effet, quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième animal crier « Viens !» Et surgit un autre cheval, couleur de feu cette fois-ci. À celui qui le montait, il fut donné de ravir la paix de la terre et de faire que l'on s'entretue. Littéralement, que l'on sente égorge, le terme revient. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit de la guerre, d'une sorte d'allégorie de la guerre. Et il lui fut donné, effectivement, une grande épée. L'épée, c'est l'arme du corps à corps. Ce n'est pas un arc ou une flèche qui tue de loin, c'est un corps à corps. Donc, l'épée, c'est vraiment la lutte. Et la lutte précise, prégnante en quelque il lui fut donné une grande étude. Et quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième animal crier « Viens !» Et je vis. C'était un cheval noir. Dans l'obscurité de la ténèbre. Et celui qui le montait tenait en sa main une balance. Qu'est-ce que ça symbolise, la balance? Eh bien, le texte l'explique. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre animaux. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Ah, voilà. C'est une manière de parler de la famine, de la disette. On n'a plus assez, on n'a plus de quoi manger. Il faut payer cher au marché noir si on veut avoir de la nourriture. Donc c'est la pénurie. Donc nous avions la guerre, nous avons maintenant la famine, et alors ça continue. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal s'écrier « Viens !» Et je vis, c'était un cheval verdâtre ou blême, la couleur du cadavre quoi, la couleur de la fleur fanée. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Mais ce terme de mort est souvent utilisé justement dans cette séquence, hein, dans les prophètes, notamment plusieurs fois dans Jérémie, dans le sens de la peste. La guerre, la famine, la peste, ce sont les trois cataclysmes fondamentaux, hein, des peuples qui n'avaient pas de quoi parer, hein, pas de médicaments, hein, pour guérir. Pour changer les situations, et les gens étaient massacrés par la guerre, la famine, ils mouraient de faim, ou la peste, la maladie. Celui qui le montait, on le nomme la mort, la peste, et l'Hadès le suivait. L'Hadès, c'est le Sheol, et c'est l'image des enfers. Le mot enfer dit, hein, les choses les plus intimes, les plus profondes. C'est une manière justement de dire ce qu'on ne sait pas. Et l'Hadès aussi. Nous avons donc les trois cataclysmes fondamentaux et qui sont guidés en quelque sorte par, disons, l'homme, l'humanité. C'est ce qui attaque l'homme, effectivement. Et donc, quand le premier vient avec la voix de tonnerre retentit, nous pouvons comprendre que ces trois réalités de la guerre, de la famine et de la peste sont en quelque sorte traversées par la présence de Jésus venant dans ce monde. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre. Oh, c'est pas grand-chose le quart de la terre. Nous verrons que les mesures vont être différentes au fur et à mesure que nous avançons dans l'Apocalypse. Un quart de la terre, c'est-à-dire, bon, une portion. Mais c'est pas tout le monde qui meurt. Ces maladies n'attaquent pas tout un chacun. Maladie ou bien la guerre, hein, voulue par les hommes. Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, la mort et les fauves de la terre. Effectivement, hein, quand la mort vient, les animaux sauvages, hein, reviennent également, les charognards. Donc qu'est-ce qui est dit là? Il a dit, ben voilà, il dit voilà. Les réalités qui attaquent l'homme, qui lui enlèvent la vie, sont de cet ordre-là, ce sont des réalités. Mais attention, ces réalités dépendent de Dieu, bien sûr, puisqu'il n'y en a qu'un. Tout dépend de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le verrons petit à petit. Mais donc, ces réalités-là ne viennent pas toutes seules. Elles sont en quelque sorte appelées. Appelées par quoi? Appelées par l'homme? Appelé par la nature, finalement tout cela remonte au Créateur. On peut le dire. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Et nous savons, il nous l'a déjà dit, que Jean avait été exilé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Donc, nous comprenons bien les victimes des persécutions. Ceux qui, à cause de leur foi, sont attaqués. Autrefois, les persécutions étaient des persécutions ouvertes et on y passait. Maintenant, les persécutions sont beaucoup plus subtiles. Elles sont dans les médias, elles sont dans l'air du temps, elles sont dans des slogans qu'on lance, hein, mais elles existent encore. Il y a des choses qui essaient, hein, de nous attirer dans la mort, et qui d'attirer Dieu par le fait même aussi. Ils crièrent d'une voix forte et dirent : jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à tirer vengeance pour notre sang, pour notre sang des habitants de la terre, hein? Et nous retrouvons là le petit passage que je vous ai cité tout à l'heure, hein, de Zacharie, où on demande justement, quand est-ce que tu vas faire justice, Seigneur, hein? Tu vas quand même punir, et de fait, ta grande colère du Seigneur va punir ses ennemis d'Israël qui tombent sur Israël à raccourci. Nous avons aussi ces paroles de vengeance. Nous les disons parfois pas trop haut, on ne les entend pas trop, mais nous les disons de temps en temps dans notre cœur. Et nous les disons dans les psaumes. Les psaumes ont aussi ces paroles de vengeance. Et souvent on dit, mais il faut gommer tous ces paroles. Ah non, il ne faut pas les gommer. Elles sont encore présentes en nous. Ils sont encore présents en nous, ces sentiments de vengeance. Mais nous pouvons transformer ces horreurs. Nous pouvons transformer cette vengeance ou ce sentiment de vengeance en prière. Et c'est pour ça que les psaumes nous sont donnés comme ça. Je vais dire cette prière à Dieu et transformer mes sentiments de vengeance ou mes instincts meurtriers, je vais les transformer en prière. Je dis souvent, hein, aux moines ou aux moniales qui chantent les psaumes, vous chantez des horreurs. Heureusement que vous les chantez. Parce que le fait de les chanter les transforme. Les transforme en prière. Et pas seulement pour les personnes qui chantent, mais pour le monde entier. Heureusement qu'ils sont là. Hein, qu'elles sont là. Il leur fut donné. De patienter, ces martyrs qui voudraient, hein, la vengeance immédiate, patience, dit le Seigneur. Il leur fut donné à chacun d'eux d'abord une robe blanche, bien sûr. Ah, donc c'est déjà le vêtement de noces. Ils sont déjà en quelque sorte accueillis par le Seigneur, un avant-goût. Et il leur fut donné de patienter encore un peu de temps, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, c'est pas trop ça, hein. Oui, à côté de la vie, de la vie du monde, hein. Et il leur fut donné de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit tout complet leur compagnon de service. Ah bon. Donc il faut que tout le monde vienne ensemble. Et donc il faut attendre que les persécutions soient achevées. Et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et je dis, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un fort tremblement de terre. Ah tiens, ça n'atteint pas seulement les hommes, ça n'atteint pas seulement les fidèles, mais dans leur vie, puisque ils deviennent d'être martyrs. Mais voilà que c'est le sol lui-même qui est atteint, l'environnement comme nous l'appelons, le monde. On parle aujourd'hui du réchauffement de la température et des cataclysmes qui peuvent venir à la suite, et voilà. Nous commençons à perdre nos repères. Il y eut un fort tremblement de terre, Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses fruits quand la tempête le secoue. Il faut des images. Vous savez, hein, quand le prunier, quand l'olivier est vraiment battu par la tempête, tout tombe. Eh bien, c'est comme ça. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Hein, nous dirions un tapis qu'on roule. Hein. Comme un livre, le livre est à dérouler. Eh bien, le ciel se retire. Le ciel, c'est ce qui, dans notre cœur, nous dit la présence de Dieu. Quand nos repères extérieurs et nos repères intérieurs s'en vont, nous perdons toute nos sécurités. Quand nous nous mettons à chavirer, à tourner, ça devient grave. Hein, mais c'est cette image-là. On perd ses repères. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent changées de place. Voilà. Le tsunami, le tremblement de terre, hein, ce que vous voulez, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Réaction. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tous esclaves et hommes libres. Et ici, il n'y a plus d'échelle sociale. Tous sont victimes d'un tremblement de terre. Le tremblement de terre ne choisit pas les châteaux plutôt que les mansardes. Tous esclaves et hommes libres, ils se cachèrent dans des cavernes et les rochers des montagnes. On veut se cacher, on veut trouver un endroit où on sera en sécurité. Ils disent aux montagnes et aux rochers, et ici, c'est le livre d'Osée qui vient nous aider. Tombez sur nous, cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est venu le grand jour de leur colère. Et si je lis bien le texte, c'est car il est venu le grand jour de sa colère. Dieu et l'agneau, c'est sa colère. C'est pas deux fois. Mais il commence par le dire au pluriel, puis c'est au singulier. Qui peut subsister? Pourquoi voyons-nous dans tous ces cataclysmes une colère de l'agneau? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agneau a été atteint par quelque chose qui ne devrait pas être, c'est-à-dire une mort prématurée. Pourquoi quelqu'un meurt-il en bas âge? Pourquoi quelqu'un meurt-il alors qu'il n'a pas accompli toute sa vie jusqu'à la vieillesse? C'est une question qui hante les hommes, celle-là. On dirait qu'il y a une mesure de l'humanité, et quand on n'atteint pas cette mesure, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est le sentiment de cette limite humaine. On s'était attaché à beaucoup de choses, et voilà que tout cela chavire. Alors il ne reste plus rien. Et donc, nous perdons tout ce à quoi nous nous accrochons. Et il faut trouver en quelque sorte quelque chose, une anfractuosité dans le rocher, qui puisse nous protéger. Alors que le seul qui puisse vraiment nous protéger, c'est celui qui habite notre cœur. C'est celui qui vit avec nous. C'est la présence de Dieu. Donc nous devrions être ouverts et accueillants à cette présence. Or, l'homme ne réagit pas comme cela. Parce que l'homme n'est pas immédiatement ajusté à cette réalité céleste, même si cette réalité céleste habite son cœur. Nous n'avons pas fini. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre. Les vents peuvent souffler et et faire disparaître toutes les maisons, eh bien, il y a des anges qui reçoivent les quatre bandes. Oui, dans l'Apocalypse, comme dans la mentalité de l'époque, Dieu ne fait pas les choses tout seul. Il n'a pas de main, vous voulez-vous. Il faut qu'il travaille toujours à partir des anges, qui sont des messagers de cet ange. Retenir les quatre mandataires, c'est-à-dire les quatre points cardinaux, c'est-à-dire toute la réalité terrestre. Eh bien, il y a des anges qui veillent là-dessus. C'est-à-dire que rien n'échappe, en quelque sorte, à la providence divine, pour le dire en d'autres mots. Afin que ces vents ne soufflent pas, sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Terre et mer, dit toute la création, et les arbres, disent la végétation. Et je vis un autre ange, monté de l'Orient. Il y en a beaucoup, vous savez, des anges. Donc ce sont les instruments, des hommes à tout faire, de Dieu. Il tenait, attention, le sceau du Dieu vivant. Ah, voilà que le sceau prend un sens un peu différent. Oh, c'est la même chose. Lorsque vous avez une lettre, vous la cachetez, vous mettez votre sceau, et donc votre nom. Et donc, le sceau dit le nom, une appartenance. Une appartenance, il y a quelqu'un qui peut vous donner le sens de ce qu'il y a dans ce rouleau, même si vous ne savez pas lire. Eh bien voilà, il tenait le sceau du Dieu vivant, le nom de Dieu, et cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, avant que nous n'ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Vous comprenez bien qu'il y a là l'image du sang de l'agneau pascal que les Hébreux, qui se trouvaient en pays égyptien, devaient utiliser pour mettre sur les linteaux de leur tente ou de leur maisonnette pour le passage d'un ange exterminateur. Vous connaissez ce texte de l'Exode. Eh bien, c'est cette image-là. Mettre le sceau sur quelqu'un, c'est dire une propriété, c'est dire une appartenance. Il y a des gens auxquels il ne faut pas faire de tort parce qu'ils m'appartiennent. Eh bien, c'est un peu ça. Quels sont ceux qui appartiennent à Dieu? Quels sont ceux en qui Dieu peut découvrir sa présence, en quelque sorte? Quels sont les cœurs assez ouverts pour laisser Dieu l'habiter? Et j'entendis, gardez-vous de nuit, avant que nous n'ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Un signe d'appartenance. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ces 144 000 ont fait couler beaucoup d'encre. Et notamment les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que ces 144 000 veulent dire et pourquoi? Dit-on, c'est 12 000 de chacune des tribus d'Israël. Et pourquoi cette manière d'écrire les 12 tribus d'Israël est différente de celle que nous trouvons généralement. Pour ça, il faut avoir lu les autres textes et pour voir qu'il y a effectivement quelques petites différences. Rappelez sans doute la naissance des enfants de Jacob, qui vont être les pères des 12 tribus d'Israël, au chapitre 35e de la Genèse, et on dit chaque fois le sens du nom de chacun. Essayons un petit peu de regarder ce texte. Donc, il y a Dieu qui veut faire percevoir une appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à Dieu? Eh bien, on va retrouver des gens qui certainement appartenaient à Dieu, puisqu'ils faisaient partie du peuple choisi. Oh, qu'est-ce que c'est qu'un peuple choisi? Pourquoi le peuple d'Israël est-il le peuple élu? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de cela pour dire ce que c'est qu'un peuple élu à des enfants, du catéchisme, je dis, tiens, nous sommes 18 ici, si on jouait une pièce ensemble, j'ai trouvé une pièce où il y a juste 18 personnages. Mais il faudrait voir un peu. Je vais prendre le premier. Je vais prendre. Il y a une fois un esclave. Qu'est-ce qu'il veut faire l'esclave? Pas beaucoup de monde, hein? C'est curieux. Si je commençais de l'autre côté, je disais, mais il faut avoir ouf, tout le monde. C'est étrange, hein? Tu pourrais pas marquer du sceau. Donc, je viens en choisir, hein? Je viens en choisir, hein, pour faire l'esclave. Mais j'en choisis un parce que je vais choisir tous les autres aussi. Je choisis, ça veut dire, je découvre la valeur d'un chacun, la dignité personnelle de tout un chacun. C'est ça, choisir. Mais nous, quand on choisit un, on ne choisit pas les autres. Ah, ça, c'est notre manière de choisir. On choisit, puis on exclut. Et non, Dieu ne choisit pas comme ça. Il met au montre un aîné pour qu'il y ait un suivant qui vienne, et puis encore un suivant. Et donc voilà, il choisit l'aîné, puis il choisit le second, puis le troisième, etc. Vous voyez, c'est la manière de Dieu choisir. Mais nous amenons toujours tout à notre petite manière de voir. Donc Dieu choisit. Il choisit qui? Il choisit ceux qui sont ouverts à lui. Et il commence par ceux qui veulent bien s'ouvrir à lui. Mais voilà qu'il commence par la tribu de Juda. Ah, c'est pas l'aîné, hein. L'aîné, c'est Ruben. Mais on comprend beaucoup, on comprend. On a déjà parlé du lion de Juda. Mais on sait bien que la tribu de Juda, hein, c'est la tribu de David et puis de ses successeurs. Hein. C'est important de mettre la tribu Juda au début. Et puis, chose curieuse, c'est que vous trouvez les enfants des deux femmes légitimes mélangés tout à fait, et même avec une certaine prépondérance, pourrions-nous dire, aux enfants de deux mères porteuses. C'est ce qui veut dire que les choix ne sont plus selon la manière de choisir l'homme. Ils sont la manière de choisir Dieu. Et il y a encore une étrangeté dans cette nomenclature des tribus. C'est que la tribu de Dan, celle qui se trouvait tout à fait au nord, là, hein, qui avait d'abord été du côté des Philistins, et puis alors elle avait émigré vers le nord, mais elle avait été idolâtre, figurez-vous. Il y avait un faux Dieu qui se trouvait là, Dan. Toute idolâtrie, là, on l'a trouvé de côté. Et il est remplacé par la tribu de Manassé, Ephraïm et Manassé, qui sont les enfants de Joseph. Donc, nous avons là, et vous l'avez bien compris, Israël qui se trouve là derrière, on finit pas, hein, le peuple élu. D'accord. Mais 144 000, ce n'est pas 144 000, c'est 12 fois 12 000. Mais c'est un grand nombre. Pas facile de compter 1000 personnes, vous savez, hein? Pas facile. On évalue, mais on ne compte pas. maintenant 12 fois 1000, et 12 fois 12 fois 1000, on peut compter tout ça, 50, 4000, ça ne se compte pas. Hein. Et c'est un chiffre qui dit que ce n'est pas un chiffre. Et quand justement on veut réduire à 144 000 familles, vous savez que les ordinateurs ont commencé pour retrouver chez les Mormons, les 144 000 familles souches. Dans tous les autres sont les descendants, ça a été tout un travail. Et c'est comme ça que les Mormons ont inventé World Effect, hein, le système des ordinateurs. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout sauf 144 000 juste. Après cela, c'était une foule immense. Ah voilà! C'était une foule immense. Que nul ne pouvait dénombrer innombrables. De toutes tribus, nations, peuples et langues, voilà de nouveau les quatre points cardinaux. C'est l'humanité entière que ces 144 000 symbolisent. Et comme l'humanité entière, c'est le champ d'action d'Israël, Israël doit annoncer le Dieu unique à l'humanité entière, eh bien, on voit bien que c'est l'arrière-fond de l'humanité entière. Et puis ça va devenir l'Église. Mais l'Église est toujours l'image de l'humanité entière. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches et des palmes à la main. Ah, des palmes à la main. Non, pour nous, les palmes, c'est le dimanche des rameaux, évidemment. Mais pour les Juifs, les palmes, hein, ce sont les fêtes des tentes, plus exactement les fêtes, la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est la fête de septembre, la fête de la récolte, et pour surveiller hein, les fruits quand ils sont mûrs, hein, grenades, olives, etc., on construit des petites cabanes dans les champs où l'on passe la nuit hein, pour veiller à la récolte. Et alors, petit à petit, hein, toute la symbolique des cabanes ou bien des tentes, c'est comme ça qu'on est passé de cabane à tente, dans le désert, lorsque Israël naviguait entre l'Égypte et la terre promise, eh bien, on va passer ces 8 jours en quelque sorte dans le désert, un désert intérieur où l'on va se rapprocher de la présence divine et où l'on va fêter le don de la Torah. Puisque la Torah signifie liberté. Hein. C'est la loi qui va libérer l'homme de tous ses asservissements, de ses esclavages à sa propre personne. Vêtu de robes et des palmes à la main. Et donc voilà une liturgie de la fête des tentes qui se trouve dans le ciel ou sur la terre. Où nous trouvons-nous? Et on voit bien qu'on est d'un côté et l'autre. Hein. Il crie d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, des anciens et des quatre animaux, voilà, nous retrouvons la cour céleste. Et on voit bien qu'il y a eu jusqu'ici un va-et-vient entre la cour céleste et la réalité humaine, parce que ces cataclysmes, évidemment, hein, la famine, la guerre, la peste arrivaient dans l'humanité. Et donc on voit bien qu'il y a un rapport entre l'histoire humaine et la présence de Dieu. Tous les anges se tenaient debout autour du trône des anciens et des quatre animaux. Ils tombèrent devant le trône, la face contre terre, et adorèrent Dieu. Nous retrouvons l'adoration. Qui est, comme je vous le disais, d'un tout autre ordre. Dieu est d'un tout autre ordre, et pourtant il est tout proche. Il disait Amen. L'adoration, c'est simplement une reconnaissance de la présence divine comme celui qui me donne vie, et qui donne vie à ce monde. Il disait Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, puissance et force. à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On reconnaît comme l'initiateur du monde, comme celui qui nous donne naissance, qui nous fait exister. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ces gens qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Et l'auteur de l'Apocalypse, il a bien lu le livre de Zacharie. Et je lui répondis, « Monseigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Eh bien, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. » La grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Étrange. Blanchir des robes dans du sang. Ces gens qui sont vêtus de robes blanches, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Bien sûr, la grande épreuve, ça signifie d'abord, pour les gens qui entendaient ce texte, les persécutions. La grande épreuve, c'est le moment où l'on est, au moment de passer de l'autre côté, comme nous disons, dans l'autre là. Mais la grande épreuve, c'est l'épreuve aussi du jugement. Qu'est-ce que c'est qu'être jugé ? Être jugé, c'est être évalué pour ce que l'on est. Être jugé, pour le visionnaire de l'Apocalypse, c'est se trouver tout d'un coup devant la présence de Dieu, dans un éclat qui est tout différent de ce que nous avions imaginé jusque-là. De le trouver en vérité. Il était déjà présent en moi, mais je ne savais pas encore, je ne pouvais pas encore percevoir qui il était. Et voilà que je suis mis tout d'un coup en présence. Le jugement, c'est exactement ça. C'est être mis en présence de quelqu'un qui va nous sauver. Car Dieu est celui qui sauve. Il sauve sa créature, puisqu'il l'a créée. Il ne va pas la laisser tomber, quand même. Sinon, il n'est pas Dieu. Dieu qui sauve. Mais pour pouvoir nous sauver, c'est-à-dire pour pouvoir nous prendre jusqu'à lui, il faut que nous découvrions jusqu'à quel point nous sommes loin de lui. C'est tout ce chemin que nous avons à faire. C'est ça le jugement. C'est notre ouverture. Qui peut être progressive ou qui peut aller très vite, je n'en sais rien. Je ne connais pas le temps de l'éternité. Mais c'est vraiment cette expérience fondamentale de nous découvrir en Dieu. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Nous savons que seul l'amour purifie. Seul l'amour et l'amour miséricordieux purifie. C'est ce qui se passe. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont passés avec l'agneau. Ils ont rendu leur témoignage jusqu'au bout. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. Vous voyez, ils s'expliquent. Ils se trouvent devant Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temps. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, non plus que toute brûlure. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône les fera paître. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu séchera toute larme de leurs yeux. Voilà une chose curieuse, je ne sais pas si vous avez remarqué que l'auteur de l'Apocalypse qui utilisait le temps passé, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, ou bien est, il arriva ceci ou cela, devient maintenant futur. Il prend, il arrive, il arrivera. Il y a un avenir qui se dessine pour ces personnes. Lorsque nous nous trouvons devant Dieu dans cette situation d'un pauvre homme qui a perdu ses repères, qui a dû tout lâcher, quand nous nous trouvons devant Dieu, nous n'avons plus qu'un seul appui, son amour. Et son amour nous est manifesté par sa mort. Nous avons été rachetés dans le sang de l'agneau. À charge de nous demander ce que cela veut dire, mais ça viendra encore. Et Dieu séchera toute larme de leurs yeux. En fait, ces futurs que nous découvrons tout d'un coup sont, si nous les retraduisons en hébreu, ce sont des inaccomplis. C'est une réalité qui est en route, mais qui doit s'approfondir encore. Et je vais terminer ici parce que l'heure est passée. Et quand il ouvrit le septième sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Je ne sais pas quelle est l'heure du ciel, je ne sais pas combien il y a de minutes dans l'heure du ciel. Il y eut un grand silence. Bien, si vous voulez bien, nous restons là-dessus en silence. Jusqu'à la semaine prochaine, nous attendrons, nous patienterons comme vous l'avez été demandé. Et puis la semaine prochaine, comme d'habitude, je reprendrai un peu, je reméditerai un peu sur ce que nous avons vu, sur cette vision que nous venons de voir. C'est sept sauts qui ont sauté l'un après l'autre, et puis nous manquerons après ça. Qu'est-ce qui se passe?